ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Mustapha Saha. Je suis très honoré que vous veniez, que vous vous déplaciez de loin, d'ailleurs, d'abord de Paris, mais bien avant, c'était le Maroc, parce que vous êtes franco-marocain et vous êtes un homme de paix. Vous venez dans notre radio régionale, Radio Présence, pour évoquer vos nombreux travaux, vos responsabilités, parce que vous avez écrit certains discours du président de la République, et puis vous êtes également poète, et vous travaillez sur des livres que j'appelle des livres qui sont de référence. Alors, le Coran, la Bible et la Constitution française, comme sociologue spécialiste de la laïcité. Ça fait beaucoup de thèmes. Merci, Mohamed. Pardon, Mustapha, parce que c'est Mohamed qui nous avait mis en contact. Mohamed qui était déjà venu plusieurs fois d'Horizon Maghrébin. Merci d'être venu.
Je voudrais tout d'abord remercier mon ami Mohamed Habib
Samrakandi.
Samrakandi, qui généreusement m'accueille chez lui. Anthropologue, sociologue, professeur à l'Université de Toulouse.
Oui, mais vous allez parler de vous et surtout de Haïm Zainati, dont vous avez écrit plusieurs livres parce que c'est un écrivain de paix qui réfléchit sur l'interculturel.
Oui, alors Haïm Zafrani est un savant qui était professeur au Collège de France, collaborateur du Collège de France, et qui a créé en France le premier département d'études hébraïques. C'est d'une importance capitale. C'est un savant marocain, juif marocain, des Saouira. Et c'est le premier, sa grande découverte, c'est le premier qui a porté des preuves archéologiques que les Juifs maghrébins, marocains en particulier, n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient.
Alors je vous arrête, s'il vous plaît, parce que tout le temps, je vais vous interrompre,
oui.
Mais j'ai peur que les auditeurs, en entendant tous ces lettrés, tous ces diplômes académiques, raccrochent le poste. Ils aillent faire peut-être la vaisselle ou la lessive ou le repassage. Alors, d'abord, vous êtes sociologue, je suis sociologue. Déjà je suis content parce que je pense que nous allons parler peut-être au même niveau. Mais je sais quelqu'un, il y a quelques 2000 ans, qui avait dit « Heureux êtes-vous parce que... » où il parlait, je crois, à son père, parce que tu as révélé cela aux petits et tu l'as caché aux sages et aux savants. Alors, nous ne savons plus où nous en sommes, parce que vous dites, oh oui, mais la sociologie, c'est bien beau, c'est une valise, mais dedans, il y a des mots vides et il n'y a pas de poignée pour porter cette valise. Puis vous avez plein d'humour, et parce que vous êtes passé par le surréalisme. Et alors, vous dites, mais de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de la laïcité?
Donc, je vous réponds tout de suite parce que c'est une lutte que je mène depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, et qui m'importe beaucoup.
Et qui fait la paix, sans doute.
Et j'ai eu beaucoup de débats, j'ai été professeur à l'université de la Sapienza à Rome, et particulièrement en Italie, j'ai eu des débats sur cette question de la transmission du savoir. Et j'étais face à des intellectuels élitistes qui défendaient la position, cette position qu'il faut mettre un minimum de culture à la disposition et à la portée du plus grand nombre. Et moi, j'avais la position contraire. J'ai toujours défendu le fait de mettre la grande culture à la disposition de tout le monde.
Pas de populisme, alors?
Non, ça n'a rien à voir avec le populisme. Bien au contraire, le populisme, c'est la télévision.
C'est
La
ça.
télévision de masse,
Le court terme, comme on dit
le
Bourdieu.
court terme, etc. Et je me souviens que pendant mon enfance, quand la télévision, quand il n'y avait qu'une seule chaîne, la première chaîne, et que la télévision, disons jusqu'à Bernard Pivot qui vient de nous quitter, présentait des émissions de grande qualité littéraire, scientifique. Théâtral, au théâtre ce soir, avec les grandes œuvres classiques, eh bien, tout le monde y
Écoutez,
écoutait, y avait
admiratif.
accès, et ça tirait l'intelligence collective vers le haut.
Vous aviez à ce moment-là la possibilité d'échanger. Alors, en même temps, je disais, je suis content, vous êtes sociologue, mais je dirais, mais il y a beaucoup de choses qui nous opposent, parce que moi, je viens des Vosges, vous venez du Maghreb, et en fait, je crois, sans déflorer votre nom et sans faire d'amalgame, eh bien, vous êtes plutôt de culture, disons, musulmane. Et moi, je suis tombé dans le bénitier quand j'étais petit parce que j'ai été baptisé par mes parents. Mais tous les deux, nous avons fait aussi des études du marxisme. Donc, nous avons fait un cheminement pour accéder, alors, j'allais pas dire à une relativisation des choses, parce que Benoît XVI dirait, mais alors, si on fait du syncrétisme, c'est du saint-crétinisme. Donc, comment garder son identité et sa culture et ses traditions et en même temps être ouvert à la modernité, à la mondialisation?
Mais écoutez, moi, depuis mon enfance, j'ai jamais confondu identité et enracinement. Depuis mon enfance, je me considère comme un citoyen du monde avant tout.
Avec des racines quand même très très locales. Et vous avez
Mais
fait des grandes études à Paris.
pas seulement, j'ai grandi en France. Et j'ai fait mon école primaire et mon école secondaire chez les jésuites à Saint-Germain-en-Laye. J'ai fait le lycée Louis-le-Grand à Paris, où j'ai passé deux doctorats de sciences à l'époque. Il y avait le doctorat,
Double thèse.
de baccalauréat de sciences et de philosophie. Et donc, heureusement, le ciel m'a préservé de la schizophrénie culturel.
Vous parlez de ciel, mais moi je ne vous suis plus. Tout à l'heure, bon, on peut dire alors Dieu dans tout ça, et c'est justement une des premières questions. Je vous avais annoncé que nous parlerions justement de ces livres dits révélés. Alors je pourrais dire, nous les lisons au premier degré, ou alors c'est Dieu qui te parle, ou c'est nous qui parlons à quelqu'un qui existe ou qui n'existe pas, parce que nous sommes dans l'intimité des consciences, et je ne vais pas vous demander, ou moi, vous n'allez pas me demander si je vais à la messe, parce que ce sont deux choses différentes, n'est-ce pas? La recherche et la pratique. Une fois sans conscience, où on peut dire je pratique mais je ne crois pas, ou je crois mais je ne pratique pas, et nous sommes là déjà dans la difficulté des sociologues.
Oui, vous savez, je dis en passant très vite que j'ai fait aussi des études aux États-Unis et c'est moi qui ai introduit la recherche-action, la
Oui.
méthodologie de la recherche-action en France. Et j'ai une admiration pour un saint, Saint François d'Assise, que j'ai étudié profondément.
Et vous sortez d'ailleurs de dans quel cas où vous étiez il y a quelque temps?
Je viens de passer une semaine à Ancalca
Chez les
et
moines dominicains, pour ceux qui ne connaissent
non,
pas.
bénédictins,
Bénédictin, pardon.
chez les moines bénédictins qui ont eu cette générosité de m'ouvrir des archives d'un monastère qu'ils avaient ouvert au Maroc, qui s'appelait le monastère de Toumliline, qui a existé entre 1952 et 1968. Et quand ils sont partis, et Toumliline est l'exemple universel du dialogue des cultures et des religions.
Nous en avons parlé deux fois dans cette émission avec, avec François et avec Habib. Alors, oui, la réflexion... Vous n'avez pas répondu sur la notion de prière lorsque je lis un texte. La Constitution ne s'adresse pas à quelqu'un supposé nous aider. Vous avez parlé du ciel. Oui. La Constitution française, c'est un texte qui, pour certains, est sacré. Ou en tout cas, qui doit donner la loi. Or, la Bible, c'est aussi celle qui propose, pour être heureux, de suivre la loi du Seigneur ou de Yahvé, ou pour d'autres, d'Allah, si c'est le cas.
Oui, je serais d'accord avec vous. Si, en parlant de la Constitution, vous parlez de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et du citoyen des droits de l'homme. La Constitution, par elle-même, a été modifiée à plusieurs reprises. Celle de la Ve République date seulement, ce qui est court dans l'échelle de l'histoire, de 1958. Mais par contre, je suis d'accord avec vous que la déclaration, les articles qui sont très limités d'ailleurs, des droits de l'homme sont des préceptes qui ont valeur sacrée.
Des principes pour lesquels certains sont prêts à mourir, ou en tout cas venir dans des pays où il y a une forme de démocratie.
Oui, ils sont des préceptes qui ont pour finalité de préserver et de sauvegarder, de défendre, de protéger la dignité humaine. Et ça, ça n'a pas de prix.
Alors, vous avez évoqué ces troubles à la fois de la fin du monastère de Tibérine, mais il y a eu aussi en Algérie d'autres drames. Et nous savons actuellement qu'il y a des guerres, des tensions, que nous avons pas le devoir de ne pas importer chez nous, mais qui nous troublent. Et je vous remercie parce que vous avez apporté un beau chant qui va nous permettre de méditer là où parfois les mots sont incapables de décortiquer la rationalité ou la bêtise humaine ou du monde ou la violence de la nature. Eh bien, peut-être que la poésie, elle nous apprend à prendre du recul, à être très humble. Présentez-nous ce texte avant que Christophe nous le fasse entendre.
En fait, il s'agit non pas d'une chanson, mais d'un chant. Un chant qui s'intitule Quds. Or, Quds signifie Jérusalem en arabe. Et bon, c'est un chant qui a une dimension poétique certaine, en même temps transcendantale et immanente. Et c'est un chant qui, dans le monde arabe et au-delà, est devenu un chant de fête sacrée, alors qu'au départ, c'est un chant laïque qui est chanté par l'une des plus grandes voix qui est toujours vivante avec Oum Kulthoum, c'est Fayrouz. Et c'est un chant qui a qui prend aux tripes.
Eh bien, nous allons
comme
l'écouter.
Un chant grégorien.
القديمة وتمسح الحزن عن المدينة
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec M. Mustapha Saha, vous êtes penseur de la diversité. Vous venez nous parler de Haïm Safrani. Et habituellement, vous écrivez plutôt des textes comme ceux du président de la République. Il fut un temps, pendant une douzaine d'années à l'Élysée. Vous venez nous présenter cette chanteuse qui nous parle de paix et de Jérusalem. Je pourrais dire, puisque nous avons évoqué les moines bénédictins, que c'est une prière qui arrive très souvent dans la liturgie, que ce soit les vêpres ou que ce soit dans d'autres moments de la prière du jour. En Jérusalem, tout homme est né. Nous sommes en pleine utopie, un désir de paix, un désir d'universel, puisque nos amis juifs qui sont venus ici nous parler aussi de cette ville ont ce nom dans le cœur, sur les lèvres. Mais je devrais dire, moi, et je pense que comme sociologue et homme politique, vous pourrez peut-être me contredire, je suis pour que Jérusalem ne soit pas une ville sainte, qu'il n'y ait pas de terre sainte, mais que ce soit une ville où chacun puisse vivre en paix.
Non seulement ça, mais Jérusalem, dès sa naissance, a été une ville universelle.
Vous parlez du roi David ?
Absolument. Moi, je veux qu'on surmonte cette division historique qui n'a entraîné que des guerres et des meurtres, et qu'on remonte à la filiation originelle d'Abraham.
Oui, mais vous savez bien qu'il y a eu Sarah et Agar, et qu'une lecture intégriste ou intégrale, ou je ne sais comment l'appeler, va dire, comme Cain et Abel, ce sont des figures qui nous invitent plus à la réflexion que à s'inspirer d'une filiation mortifère.
Oui, ça c'est réduire cette lecture. Relation filiale sacrée à des contingences terrestres. Moi, je veux que Jérusalem retrouve sa dimension immanente, ça veut dire c'est l'incarnation du sacré sur terre. Et à ce titre, elle appartient au patrimoine, elle a toujours appartenu au patrimoine de l'humanité et elle doit le devenir.
Alors il faudrait reprendre peut-être la Kabbale avec l'importance des chiffres. Mais ça dépasse le cadre de notre dialogue.
Absolument.
Revenons, s'il vous plaît, à Haïm Safrani, ce penseur de la diversité.
J'ai consacré un livre à Haïm Safrani qui s'intitule effectivement Haïm Safrani, penseur de la diversité. Et pour ceux que ça intéresse, c'est aux éditions Maisonneuve La Rose. Et ce savant qui a écrit notamment sur la Kabbale, qui a retrouvé des manuscrits inédits de l'Andalousie, ce savant insistait sur le concept de synergie des religions et synergie des cultures. Et la synergie des religions et la synergie des cultures transcendent le dialogue formel. Elle débouche sur une véritable interactivité entre les ressources culturelles, physiques et métaphysiques des êtres humains.
C'est pour ça que vous complétez ces travaux vous-même par l'étude de l'intelligence artificielle, des mutations civilisationnelles induites par la révolution numérique. Faudrait que vous reveniez cher Mustapha, pour nous évoquer ces travaux, mais peut-être juste un titre, justement, de vos travaux.
Je suis en train de finaliser un texte en pleine actualité. Je rappelle en une phrase le contexte, c'est que j'ai été professeur à l'Université d'Ottawa au Canada, au moment où a émergé, 20 ans avant l'Europe, au Canada et aux États-Unis, en Californie notamment, la révolution numérique. Et dès le départ, j'ai fait plusieurs séminaires, des séminaires sur la révolution numérique. Dès le départ, j'ai pressenti que c'était à la fois une technologie fantastique qui ouvrait des horizons insoupçonnables à l'être humain et à l'intelligence humaine, mais en même temps que ces technologies étaient à double tranchant. Et là, je finalise un texte qui s'intitule « La conscience engloutie dans l'intelligence artificielle ».
Ça vous ramène à vos premiers travaux où vous étiez très proche des surréalistes.
Bien sûr.
Et du mouvement des mai 68.
Bien sûr, et des situationnistes. Et donc, en mai 68, notre slogan de départ... D'abord, je rappelle, on a raconté tout et n'importe quoi sur 68. En fait, les étudiants de Nanterre, dont je faisais partie, cofondateur du mouvement du 22 mars, n'avaient aucun projet politique. La politique ne nous intéressait pas.
Mais il faut changer la vie.
Notre programme, c'était changer la vie. Comme l'avait prophétisé Arthur Rimbaud.
On retrouve, je vous interromps parce qu'il nous reste une minute, mais je ne voudrais pas que nous arrêtions sans évoquer justement la poésie de votre compagne, de votre épouse Elisabeth, qui travaille aux éditions à écrire des poèmes.
Oui, alors, mon épouse Elisabeth vient de publier un texte qui est disponible sur toutes les plateformes qu'on peut commander sur Internet, qui s'intitule « L'artiste ».
Elisabeth Bouillot, B-O-U-I-2-L-O-T.
Voilà son nom de jeune fille, qui est Bouillot, B-O-U-I-2-L-O-T, effectivement, Elisabeth Bouillot. Le titre du livre et l'artiste aux éditions Mindset, et qui est disponible sur toutes les plateformes de livres sur Internet qu'on peut commander et puis recevoir chez soi. Et ce livre est un livre dans la lignée parfaite du surréalisme, c'est-à-dire c'est un livre total qui comporte 32 chapitres qui s'ouvrent sur des œuvres d'art.
Merci de toutes ces précisions. Et je pense qu'il fallait conclure aussi par un message de joie, parce que nous sommes dans une réflexion qui dépasse nos cultures et nos identités. Et vous aviez, je crois, une phrase d'un poème.
Je voudrais juste rendre hommage à un grand penseur qui nous a quittés depuis 1962, mais qui est plus actuel que jamais. C'est Louis Massignon, qui a été l'introducteur du poète mystique Hellage en Occident. Et dire ce vers de Hellage, c'était « Tirez-moi donc mes féaux, camarades, c'est dans mon martyre qu'est ma vie. »
Merci Mustapha et merci à Christophe pour l'enregistrement.